Les mystères du Palais Royal, quatrième partie. Chapitre 28. Morte. Les dernières paroles de Déborah, cette preuve d'une affection qui durait autant que la vie de la malheureuse jeune fille, produisirent une impression terrible sur Hébé. Pendant quelques secondes, la lumière se fit dans les ténèbres de cette âme aveuglée par la jalousie. L'assassin comprit toute l'infamie, toute la lâcheté de son crime, et il eut horreur de lui-même. La fille du diable devint pâle, et au lieu de prendre les bijoux que lui présentait Déborah, elle recula de 2 ou 3 pas. « C'est mon présent de noces, » répéta la juive avec un sourire angélique. « Ouvre tes mains, chère Hébé. » « Non, non, » balbutia la jeune fille avec une sorte d'égarement. « Je ne veux pas, je ne veux pas. »« Tu refuses ?» demanda Déborah surprise. « Oui, oui, » répondit Hébé, « je refuse. » « Mais pourquoi ?» Hébé comprit que son trouble et son émotion allaient la trahir. Elle s'efforça donc de prendre sur elle-même, et elle répondit « Tout cela est trop beau, trop riche. Qu'importe ? Une pauvre fille comme moi ne peut se parer de semblables joyaux. Eh bien, cher Hébé, prends toujours. Si tu ne veux pas porter ces diamants, tu les vendras, et ce sera le commencement de ta dot, pour le jour où tu rencontreras quelqu'un à qui donner ton cœur. » Un beau jeune homme qui t'aimera bien, et que toi aussi tu aimeras, autant que moi j'aime Raoul. » De pâle qu'elle était, Hébé devint pourpre. Un feu sinistre brilla dans sa prunelle, comme un de ces éclairs qui, dans une chaude nuit d'été, sillonnent silencieusement le bleu sombre du ciel. « Tu acceptes, n'est-ce pas ?» demanda la juive avec une voix presque suppliante. « Eh bien oui, » répondit Hébé, en qui venait de se faire une brusque révolution. « Eh bien oui, puisque tu le veux, j'accepte. »« Ah, la bonne heure, chère Hébé, tu m'as fait de la peine tout à l'heure, mais maintenant tu me rends heureuse, bien heureuse. » La fille du diable s'était approchée du lit. Elle prit des mains de Déborah les joyaux étincelants que cette dernière lui tendait, et se penchant sur elle, elle lui donna un nouveau baiser de Judas. « Figure-toi, » dit Déborah en passant son bras autour du cou d'Hébé, de façon que la tête de la jeune fille resta au niveau de la sienne, afin de pouvoir lui parler tout bas à l'oreille. « Figure-toi que ce matin, en me réveillant, j'avais peur. »« Peur ?» répéta Hébé. « Oui. Et de quoi ?»« D'un rêve qui m'est venu cette nuit, et dont tu étais un peu cause. »« Moi ?» s'écria Hébé en tressaillant. « Chère petite sœur, ce que je te dis n'est pas un reproche, va. » « Mais enfin ce rêve, ce rêve. Oh, une folie. Tu te souviens de cette sinistre prédiction que tu m'avais faite, après avoir étudié l'avenir dans les lignes de ma main. Depuis lors, nous en avons reparlé plus d'une fois. » Hébé ne répondit pas, mais un mouvement de sa tête indiqua qu'elle se souvenait. « Eh bien, chère sœur, » reprit Déborah, « cette nuit, j'ai rêvé que ta prédiction se réalisait. » « Comment ? » demanda Hébé d'une voix basse et que son trouble rendait indistincte. « Je n'épousais pas celui que j'aime. » « Et quel obstacle se dressait entre vous ?»« La mort. »« La mort ?» répéta Hébé. « Je mourrais, » poursuivit Déborah. « Oh, quel horrible rêve !»« Je mourrais, ainsi que tu me l'avais annoncé dans ta prédiction. »« Je mourrais assassiné. »« Assassiné ?» balbutia Hébé. « Et par qui ? Sais-tu par qui ?»« Non. » Je ne voyais pas la main qui me versait du poison. Je me savais empoisonnée. Je me sentais mourir. Mais je n'accusais personne. Quel rêve étrange et terrible, n'est-ce pas ? En me réveillant baignée d'une sueur froide, je me suis sentie sous le coup d'une douloureuse impression. Ma tête est faible, bien faible, et je confondais le rêve et la réalité. Heureusement, cette impression n'a pas duré longtemps. Je me suis vue entourée de Raoul, de mon père, et de toi, enfin, de tous les êtres qui m'aiment. Comment craindre un crime, ou même un malheur, quand on est si bien gardé ? L'étreinte des bras de Déborah se relâcha peu à peu quand elle eut prononcé ces paroles. Hébé put relever la tête. Mais certes, en ce moment, à la lueur des bougies, des candélabres, son visage était d'une pâleur plus livide que celui de la mourante. Machinalement, et pour se donner une contenance, la jeune fille réunit tous les bijoux épars sur le lit. et elle les entassa dans le coffret, et reporta ce coffret lui-même à la place où elle l'avait pris, pour se conformer au désir de Déborah. « Voici que le sommeil s'empare de moi, » dit tout à coup la mourante. « Mon père, Raoul, asseyez-vous, je vous en prie, chacun d'à côté de mon lit. Je voudrais, en m'endormant, sentir mes deux mains dans les vôtres. » Le père et le fiancé s'empressèrent de se rendre au désir de leur bien-aimé. Nathan passa dans la ruelle. Raoul s'agenouilla de côté opposé. Le jeune homme serra contre les siennes la main gauche de Déborah, tandis que le vieillard prenait la main droite. Hébé, assise auprès de l'une des fenêtres, cachait son visage entre les plis des rideaux de l'ampa. Bientôt, Déborah s'assoupit. On n'entendit plus, du milieu du profond silence de la nuit, que le bruit léger de sa respiration faible et irrégulière. Une heure à peu près se passa ainsi. Nathan, rassuré par ce calme sommeil, sentait des pensées d'espérance germer peu à peu dans son âme et y grandir. Monsieur de la Tremblay, lui, ne pouvait oublier l'arrêt fatal et sans appel prononcé par Moses. Aussi, de grosses larmes, débordant de dessous ses paupières abaissées, tombaient une à une sur le lit. Soudain, le père et le fiancé poussèrent un cri rauque, aussitôt interrompu, et se regardèrent avec épouvante. Ils venaient de s'apercevoir en même temps que ces petites mains qu'ils tenaient entre les leurs devenaient froides et se raidissaient. Raoul le premier comprit la terrible vérité tout entière. « Elle est morte !» s'écria-t-il. « Oh mon Dieu, elle est morte !»« Non !» répondit Nathan avec une voix étrange et profonde comme celle des somnambules qui parlent pendant l'accès du sommeil magnétique. « Non, elle n'est pas morte. C'est impossible. Le Dieu de mes pères ne l'aurait pas permis. Déborah n'est pas morte. Non, non, je vous dis que ce n'est pas vrai. Je vous dis qu'elle n'est pas morte. » Et se précipitant avec une sorte de fureur sur le lit, ce malheureux père saisit entre ses bras le corps inanimé de son enfant, en murmurant « Déborah ! Ma fille chérie ! Ma Déborah ! Mon petit enfant, réponds-moi ! Parle à ton père ! Ouvre tes grands yeux, tes beaux yeux ! Parle-moi, au nom du ciel ! Dis-moi que tu vis ! Dis-le-moi, vite, bien vite ! Ou bien c'est moi qui vais mourir ! » Hélas, hélas, le cadavre ne pouvait répondre. Nathan poursuivit. « Tu dors, je le vois bien. Mais ce sommeil est trop profond. Il m'inquiète. Il m'effraie. Il me tue. Déborah, éveille-toi. Déborah, ouvre tes yeux. » Et comme le visage déjà glacé par la mort restait immobile ainsi qu'un masque de cire, Nathan appuya sur les paupières ses doigts tremblants et les souleva. La paupière resta soulevée et l'on vit ses yeux muets, ses yeux sans regard, ses yeux dans lesquels n'étincelait plus le divin rayon de l'âme et de la vie. Nathan comprit alors à son tour. Sa douleur, surexcitée jusqu'au délire, devint une véritable folie. Il poussa un cri terrible, et se roulant comme un insensé sur le tapis de la chambre mortuaire, il mit ses vêtements en pièces et il couvrit sa tête de cendres. Raoul, agenouillé auprès du lit, sanglotait. Hébé se tordait les mains avec l'expression du plus effrayant désespoir, et qui sait si ce désespoir mêlé de remords et d'horreur, en ce moment, n'était pas sincère. Cette scène lugubre finit soudainement et eut un dénouement étrange. Nathan, les vêtements en lambeaux, défiguré par la cendre qui sur son visage se mêlait avec les larmes, cessa ses cris et ses gémissements. Il s'approcha du lit et il dit à Raoul agenouillé « Monsieur de la Tremblay, levez-vous. » Le jeune homme obéit. Nathan poursuivit d'une voix presque calme, mais dont les angoisses du désespoir avaient entièrement changé le timbre. « Plût à Dieu que vous n'eussiez jamais mis les pieds dans cette demeure. Ma Déborah, ma fille bien-aimée, serait maintenant vivante et forte sans ce fatal amour que vous lui avez inspiré. Je ne vous maudis pas, monsieur de la Tremblay, car je crois que vous souffrez comme moi, et que comme le mien, votre cœur est brisé. Je ne vous maudis pas, mais je vous dis... Vous avez, sans le vouloir, amené la mort dans cette demeure. Vivante, vous m'avez pris ma fille. Morte, elle n'est plus rien pour vous. Elle n'appartient plus qu'à moi. Quittez donc cette maison, monsieur de la Tremblay. Quittez-la vite, car si vous y restiez plus longtemps, j'oublierai que vous aimiez ma fille, pour me souvenir seulement que vous l'avez tuée, et je vous tuerai. » Raoul s'inclina silencieusement devant cette douleur terrible. menaçante et sublime même dans son injustice. Il appuya une dernière fois ses lèvres sur la main glacée du cadavre de Déborah. Puis, sans répondre un seul mot et sans tourner la tête en arrière, il sortit de la chambre et de la maison. Chapitre 29. L'ange gardien. Pour mettre nos lecteurs au fait des événements qui suivirent, d'une façon presque immédiate, la catastrophe qui termine le précédent chapitre, il faut quelques lignes ou plusieurs volumes. Quelques lignes si nous nous contentons de tracer un sommaire rapide et sans détails. Plusieurs volumes si nous jugeons utile et possible d'entrer dans une minutieuse analyse des passions et des sentiments de nos personnages. Or, l'espace nous manque pour ce dernier travail, dont la nécessité et l'intérêt d'ailleurs ne nous paraissent point démontrés, nous l'avouons. Contentons-nous donc de quelques lignes, ou pour mieux dire, de quelques pages. L'amour de Raoul de la Tremblay pour Déborah avait été réel et sérieux. En assistant à la mort de la malheureuse jeune fille, Raoul crut que quelque chose se brisait en lui. Il se persuada consciencieusement que sa vie était perdue désormais. Il était plus de minuit au moment où il sortit de cette maison, dans laquelle il laissait son cœur enchaîné à un cadavre. Pendant tout le reste de la nuit, il erra dans les rues de Paris, comme un fou ou comme un homme ivre, ne sachant pas où il allait, marchant sans but, et ne conservant qu'à peine la conscience du malheur qui venait de le frapper. Un miracle permit qu'il ne fût point arrêté, dévalisé et peut-être assassiné par quelques-uns des rôdeurs de nuit qui, à cette époque, fourmillaient dans la grande ville. Si cela fût arrivé, certes Raoul ne se serait pas défendu. Enfin, au moment où l'aube naissante blanchissait le faîte des maisons, M. de la Tremblay se trouva dans le quartier du Marais, où sa course vagabonde l'avait amené sans qu'il le sût. Un vague instinct le conduisit à la porte de son petit hôtel, situé, comme on doit s'en souvenir, dans la rue du Pas de la Mule. Raoul frappa. Le gros Suisse à rouge trogne, faisant fonction de concierge, ouvrit, non sans avoir pesté contre le visiteur matinal, qui venait si intempestivement troubler son doux repos. En reconnaissant le chevalier, l'Helvétien, honteux et confus, bondit en arrière, malgré sa rotondité imposante, en se disant qu'il avait fait attendre son maître et qu'il allait pleuvoir des coups de canne. Mais Raoul, qui ne s'était pas même aperçu de ce retard, passa muet et chancelant. Le Suisse remarqua le visage gonflé de M. de la Tremblay, ses yeux rougis, sa démarche hésitante et respectueux dans ses suppositions, selon les louables coutumes de la valetaille de tous les étages. Il se dit « Monsieur le chevalier sort de quelque orgie. Il a gaiement fêté Bacchus. Il est ivre à ne pouvoir se tenir. Allons-nous coucher. » Que voulez-vous ? Ce Suisse avait besoin de sommeil. Sur le perron de l'hôtel, Raoul trouva son valet de chambre qui l'attendait. Ce valet de chambre, on ne l'a pas oublié non plus, était Jacques, le domestique fidèle et dévoué par excellence, l'ami, le compagnon de son maître. Jacques ne se trompa point, comme le Suisse, aux douloureux symptômes qu'offrait le visage défait de Raoul. Il ne prit point les sillons creusés par la douleur sur cette pâle figure pour les vestiges mal effacés de l'ivresse et de la débauche. « Seigneur, mon Dieu, monsieur le chevalier, mon pauvre maître !» s'écria-t-il avec émotion. « Qu'avez-vous ? » Raoul ne parut pas entendre. Jacques répéta sa question. « Elle est morte !» répondit Raoul d'une voix sourde. « Morte ! Et je vais mourir !»« Mourir ?» balbutia Jacques avec désespoir. « Mourir ? Ah, bien alors, par exemple, vous m'emmènerez avec vous !» Jacques avait ouvert la porte du vestibule. Raoul fit quelques pas en avant. Puis il chancela, trébucha, et poussant un léger gémissement, il serait tombé tout de son long sur les dalles si Jacques ne s'était précipité pour le soutenir et ne l'avait reçu dans ses bras, complètement évanoui. Cette défaillance de Raoul était le prélude d'une longue et dangereuse maladie. Pendant bien des jours et pendant bien des nuits, M. de la Tremblay ne reprit pas connaissance et fut entre la vie et la mort. Enfin, un matin, le fidèle Jacques tomba dans les excès de la joie la plus folle, en entendant le médecin lui déclarer que désormais son maître était hors de tout danger et que la convalescence allait commencer. En effet, vers le milieu de ce même jour, Raoul promena autour de sa chambre un regard étonné, dans lequel il n'y avait plus trace d'égarement. Il appela Jacques. Jacques était là, tout près, n'attendant que cet appel. Il accourut. « Mon ami, » lui demanda Raoul en tirant hors du lit une de ses mains dont la maigreur parut l'épouvanter. « J'ai été malade, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur le chevalier, bien malade. »«
Pendant bien longtemps ?»«
Trop longtemps, hélas, mon bon maître. »«
Combien de jours ?»«
3 semaines. »«
3 semaines ?» répéta Raoul, auquel revenait la mémoire de la fatale nuit qui avait déterminé sa maladie.
« Déjà 3 semaines qu'elle est morte ?»
Et des larmes amères ruisselèrent avec abondance sur son visage décharné. C'était la première fois, depuis l'agonie de Déborah, que Raoul pleurait. Ses larmes le soulagèrent un peu. Au bout de quelques instants, il reprit. « Tu m'as bien soigné, mon pauvre ami. »«
J'ai fait de mon mieux, monsieur le chevalier. »
« Et, » demanda Raoul, « tu m'as soigné seul ?» Jacques parut hésiter avant de répondre.
« Je ne comprends pas bien la question de monsieur le chevalier, » dit-il enfin.
« Étais-tu seul ?» répéta Raoul. « Seul pour me prodiguer ces soins qui m'ont sauvé ?»«
Mais sans doute, » balbutia le valet de chambre avec embarras.
« Oserais-je demander à monsieur le chevalier pourquoi il m'adresse cette question ?»«
Ah ?» « C'est que, » répliqua Raoul, en ayant l'air de fouiller dans sa mémoire,
« plus d'une fois, au milieu des visions incohérentes de mon délire, il m'avait semblé entrevoir dans cette chambre, auprès de mon lit, une forme vague, une femme, un fantôme. Cette forme, cependant, me semblait plus distincte que les autres apparitions enfantées par les ardeurs de la fièvre. Était-ce un rêve aussi, cela, Jacques ?»
Une hésitation nouvelle se manifesta sur l'honnête figure du valet de chambre. Cependant, il ne savait pas mentir, et il répondit
« Non, monsieur le chevalier, ce n'était pas un rêve. Et si j'ai eu tort, je supplie, monsieur le chevalier, de vouloir bien me pardonner. »«
Te pardonner ? Explique-toi. Que te reproches-tu donc, et pourquoi te pardonnerais-je ? »
« Je vais tout dire à monsieur le chevalier. »
« J'attends. » Ici, Jacques commença un récit fort long et surtout fort embrouillé que nous allons simplifier de notre mieux pour ne point abuser de la patience de nos lecteurs. Jacques apprit à son maître que le lendemain du jour où la maladie s'était déclarée, une jeune fille d'une grande beauté, mais qui semblait profondément triste, avait forcé la consigne et avait trouvé moyen de parvenir jusqu'à la chambre de Raoul. Interrogée par Jacques, elle l'avait supplié de lui laisser partager les soins qu'il donnait à son maître. Et sur la réponse du valet qu'il ne pouvait admettre une inconnue dans l'intérieur de l'hôtel et près d'une couche de souffrance, elle s'était écriée
« Une inconnue ? Mais je ne suis pas une inconnue pour monsieur de la Tremblay. Personne en ce monde ne lui est dévoué plus que moi, autant que moi peut-être. Et plus tôt ciel qu'il pût me reconnaître et vous parler. Il vous dirait de me laisser auprès de lui. » Il vous dirait que mes soins lui sembleront doux. »
Ému par ce langage, ému par la beauté de la jeune fille et surtout par les pleurs qui coulaient sur ses joues, Jacques céda. À partir de ce moment, l'inconnue ne quitta en quelque sorte ni jour ni nuit le chevet du lit de Raoul. Dans ce corps frêle et charmant, Dieu semblait avoir caché une force qui tenait du prodige. Rien ne fatiguait la jeune fille. Durant les 3 semaines qui venaient de s'écouler, elle n'avait pas pris 2 heures de repos, et pas une fois Jacques ne l'avait trouvée endormie.
« Enfin, monsieur le chevalier, » dit le valet de chambre en terminant et comme péroraison de son récit, « ce n'est pas une femme, c'est un ange. Pas plus tard qu'hier au soir, le médecin me disait que c'est à elle, autant qu'au bon Dieu et à la médecine, que vous deviez la vie. »
Après avoir écouté Jacques, Raoul resta rêveur. « Quelle peut être cette femme ? » se demanda-t-il. Quelle peut être cette mystérieuse inconnue qui se dévoue pour me sauver ? Il chercha longtemps. Puis, ses lèvres murmurèrent tout bas un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis longtemps. « Émeraude ! » En ce moment, la porte s'ouvrit. Un pas léger effleura le tapis.
« La voici ! » s'écria Jacques.
Raoul essaya de se soulever dans son lit pour voir plus vite. L'inconnue était la fille du diable.
« Sauvée ! » s'écria Hébé, Enfin, sauvé, ô Dieu soit béni !»«
Vous ? » balbutia Raoul avec stupeur.
« Eh ! » répondit la jeune fille, « qui serait-ce, si ce n'était moi ?» Puis elle ajouta avec l'accent de l'exaltation. « Ne vous ai-je pas conservé la vie une première fois, rue des Prouvaires ? Ne devais-je pas vous la rendre une seconde ici ? Ne me trouverez-vous pas toujours, monsieur de la Tremblée, entre la mort et vous ?»
Chapitre 30. La matrone d'Éphèse.
C'était bien Hébé, en effet. Hébé, qui, après avoir consommé son crime infâme, après avoir achevé son œuvre infernale, avait béni la maladie de Raoul, qui lui offrait le seul moyen sûr de se rapprocher du jeune homme.
Mais, demanda Raoul, quel hasard étrange a pu vous apprendre que la mort m'appelait à elle ?
Le hasard ne m'a rien appris.
Comment ?
Ce n'est pas le hasard qui m'a conduite ici.
Qu'est-ce donc ?
Ma volonté ? Je voulais pleurer avec vous. Pleurer votre fiancée, Raoul, ma protectrice, ma seule amie.
En prononçant ces mots, Hébé cacha son visage entre ses deux mains et ses larmes coulèrent longuement. Puis elle reprit.
« Je suis venue, j'ai su que vous étiez mourant. Je me suis dit, c'est Dieu qui m'envoie.
Voilà tout ce qui s'est passé. Vous voyez bien que le hasard n'y est pour rien.
M'en voulez-vous d'être venu ?
Pouvez-vous me le demander ? S'écria monsieur de la Tremblée en s'efforçant d'étendre sa main débile vers la main de la jeune fille.
« Je vous remercie et je vous bénis. »«
Me permettrez-vous de revenir ?»
dit Hébé d'une voix tremblante.
« Je vous en supplierai. »«
Quelquefois ?»«
Non pas quelquefois, souvent. »«
Bien vrai ?»«
Chaque jour. »«
Oh, Raoul, que vous êtes bon !»«
Ce n'est pas moi qui suis bon, Hébé, c'est vous qui êtes un ange. »
« Nous parlerons d'elle, sans cesse, » reprit la jeune fille. « Nous tâcherons de nous figurer qu'elle est encore auprès de nous. »«
Hélas, » balbutia Raoul, « nous ne la reverrons plus. » Et il s'abîma dans une douleur qu'Hébé sembla partager.
Ainsi que Raoul le lui avait demandé, la fille du diable revint le lendemain, puis le surlendemain, puis chaque jour. Raoul était complètement guéri, et cependant la jeune fille ne cessait pas de venir. Et tant que la journée durait, elle ne quittait point l'hôtel de monsieur de la Tremblée, continuant avec une charité d'ange son doux rôle de consolatrice. Avez-vous souvenance, cher lecteur, d'un conte charmant du bonhomme Jean de La Fontaine ?
Un conte de La Fontaine ?
Oui.
Charmant ?
Oui.
Mais ils le sont tous.
Un surtout.
Lequel ?
Devinez.
La matrone d'Éphèse, peut-être.
« Justement.
Eh bien ?
Eh bien, vous qui avez tant d'esprit, devinez encore. »«
Quoi donc ?
Devinez à quel propos je vous parle de ce conte. »«
Je l'ignore. »«
Et si vous le saviez, je ne vous dirais pas de deviner. »«
Ne serait-ce point par hasard que vous trouvez quelque rapport entre la situation de la veuve éplorée, s'enterrant toute vive avec feu son époux, et celle de Raoul de la Tremblée ? Prête à mourir de désespoir et d'amour ?
Oui, le comte de La Fontaine se trouvait mis en scène dans la réalité, avec cette seule différence qu'au lieu de la matrone d'Éphèse, il y avait Raoul de la Tremblée. Du reste, tous les détails furent les mêmes. Ce fut de Déborah que Raoul et Hébé parlèrent d'abord. Ils en parlèrent longuement, exclusivement, et chacune de leurs paroles était baignée de larmes. Puis, peu à peu, sans doute à l'insu de Raoul, la conversation dévia de cette route unique qu'elle avait suivie jusque-là. Après avoir tant parlé de la morte, les jeunes gens en arrivèrent à parler un peu d'eux-mêmes. Puis, par une sorte de convention tacite, ils arrivèrent à ne plus prononcer le nom de Déborah. Alors, il n'y avait plus de larmes dans les yeux, et sur leurs lèvres, il y avait des sourires. Enfin, 2 mois environ après le jour de la guérison de Raoul, ce dernier, seul un instant et fouillant dans son cœur pour chercher un lambeau de désespoir, y trouva, au lieu de souvenir de la juive, un violent amour pour la fille du diable. Nous l'avons dit,
Raoul avait été de bonne foi dans sa passion pour Déborah, comme dans ses regrets. Ce ne fut donc point sans étonnement et sans épouvante qu'il fit la découverte que nous venons de signaler. Il lui sembla d'abord qu'il était infidèle à la pauvre enfant morte, si jeune et si belle, et couchée à cette heure dans son linceul glacé. Mais la réflexion, ou plutôt les triomphants sophismes de l'amour, le rassurèrent bientôt. Il se dit qu'il avait fait tout ce qu'il devait, et même plus qu'il ne devait. Qu'après tout, ce n'était pas sa faute s'il n'était point mort pour aller rejoindre Déborah. Et que puisqu'Hébé lui avait conservé la vie, il appartenait bien légitimement à Hébé. Il se dit bien d'autres choses encore, qu'il serait trop long de rapporter ici. Et la conclusion de tous ces beaux raisonnements fut qu'il importait de s'assurer sans retard si la fille du diable partageait l'amour qu'elle avait inspiré. Hébé, interrogé à cet égard par M. de la Tremblée, lui avoua tout naïvement et sans fausse pudeur que depuis bien longtemps, depuis l'heure de leur première rencontre au coin de la rue Richelieu et de la rue Saint-Honoré, elle lui avait donné son cœur et son âme tout entier. « Sois à moi !» murmura Raoul, transporté d'une douce ivresse. Mais ce n'était point ainsi qu'Hébé l'entendait. Sans doute, elle aimait Raoul. Sans doute, elle sentait son cœur battre et son corps tressaillir à la pensée de lui appartenir. Mais elle ne voulait point de Raoul pour amant. Elle voulait de lui pour mari. Ce qu'il lui fallait, c'était une position honorable, honorée, solide, inattaquable. Hébé croyait Raoul grand seigneur. Elle rêvait d'être grande dame. « Le nom de la Tremblée m'appartiendra, disait-elle. Il doit m'appartenir. Je l'ai payé assez cher. » En conséquence, elle résista à Raoul. Or, la résistance en amour, c'est de l'huile jetée sur le feu. Ceci est un adage vieux comme le monde et qui sera toujours nouveau, car le cœur humain et les passions ne changeront jamais. Cependant, le désappointement de M. de la Tremblée quand il entrevit les intentions matrimoniales d'Hébé fut profond. Ce n'est qu'à son corps défendant, nous le savons, qu'il s'était résolu à demander Déborah en mariage. Et pourtant, Déborah joignait à sa splendide beauté les attraits d'une fortune presque royale. Mais épouser une aventurière, une diseuse de bonne aventure, la fille adoptive de la mère Moloch, infâme sorcière que les fagots réclameraient au premier jour, c'était tout autre chose. Et Raoul, qui parfois prenait au sérieux son origine patricienne, ne s'y pouvait point décider. « Attendons, se disait-il. Attendons. Hébé même, Hébé cédera. » Mais Hébé avait au fond de l'âme autant d'ambition que d'amour. Et Hébé ne cédait pas. Et de son côté, elle se disait « Attendons, il y viendra. Il faudra bien qu'il y vienne. » L'amour que Raoul éprouvait pour la fille du diable ne ressemblait point à celui qu'il avait ressenti pour la juive Déborah. Si nous avons su faire comprendre de quelle nature était la beauté d'Hébé, nos lecteurs devinent que cette beauté provocante et voluptueuse avait dû allumer dans les veines de Raoul une passion toute sensuelle, pleine d'impétueux désirs et de flammes inextinguibles. Avec une infernale rouerie, déguisée sous un grand air de naïveté et d'innocence, Hébé attisa ses ardeurs. Peu à peu, elle fit du cœur de Raoul un brasier dévorant, d'où s'échappaient des jets de feu qui courait dans ses veines au lieu de sang. Bientôt, cet amour devint un supplice. Raoul comprit qu'il lui fallait posséder Hébé ou mourir. Mais cette possession, ceci lui était prouvé maintenant, il ne la pouvait acquérir qu'en sacrifiant sa liberté. La clé d'or du mariage lui pouvait seule ouvrir la chambre à coucher d'Hébé. Raoul, épuisé, céda. La fille du diable, triomphante, devint Madame de la Tremblée.